Le voyage en Savoie par Charles Ferdinand Ramu, lu par Christiane Johan pour audiocité.net. Première partie. C'est alors que ça avait commencé à se gâter sérieusement, dans ce marais. Et à cause de ce marais, le cinquième ou le sixième jour de notre voyage. Ceux qui ne connaissent pas la montagne et ne l'ont parcourue qu'en utilisant les grandes routes, il y en a, ou les lignes de chemin de fer électrique, il y en a, et beaucoup, ont peut-être une tendance à l'imaginer, topographiquement et géologiquement, beaucoup plus simple qu'elle n'est. Elle est faite pour eux de pentes plus ou moins raides, elle est faite de pierres et de neige, avec quelques bois et des pâturages, et s'ils conçoivent bien qu'elle contienne des vallées et des vallons, peut-être ne se représentent-ils pas qu'elle puisse comporter encore de vastes espaces plats et même concaves, au sein de sa vaste convexité, de nombreuses poches, dont quelques-unes seulement, assez indiquées ou assez profondes, pourraient être occupées par des lacs, grands et petits. Il y a beaucoup de marécages dans la montagne. L'eau n'est pas toujours là où on pense, et elle est là où on ne s'y attendrait pas. Elle est cachée ou pas cachée, elle est visible ou pas visible. Brillante comme une plaque de fer blanc, limpide comme un regard, ou au contraire sournoise, traîtreusement habillée d'une couleur qui est celle des terrains qui l'entourent, de sorte que l'on n'en distingue pas, vous savez bien qu'il lui est tout à fait impossible de remonter à son point d'origine. Du moins à l'état liquide, c'est ce qu'on nous a enseigné au collège. On ne la trouve pas moins en abondance dans des endroits où on ne s'attendait pas à la trouver, compte tenu de la configuration du sol et de la disposition des pentes avoisinantes. Et comme elle est, où elle ne doit pas être, et qu'elle le sait bien, qu'elle ne doit pas y être. Le plus grave est alors qu'elle se dissimule, qu'au lieu de se distribuer régulièrement, comme ailleurs, en vastes nappes apparentes, elle se terre et se blottit en cachettes éparses que rien n'indique, sauf l'enfoncement de votre pied quand vous passez sur un de ces gîtes, soigneusement recouverts d'herbes, de mousse, de terre sèche. Suintement des eaux, mystère des sources, tout autour de vous, les grands éboulis qui dévalent en convergeant semblent parfaitement arides, parfaitement dépourvus de toute trace d'humidité sous le grand soleil, n'étant d'abord qu'une fine poussière, puis plus bas du sable, puis un peu de gravier, puis des blocs de plus en plus gros. C'est entre les plus gros de ces blocs, dans cet espace plat, dans ce fond d'entonnoir qui s'ouvre innocemment en demi-cercle devant vous, qu'il convient de vous méfier quand vous y arriverez, touristes. Nous avions pris le train 5 ou 6 jours avant en gare de Genève, au grand étonnement et à la grande désapprobation des nombreux alpinistes qui encombraient les quais. De redoutables personnages à souliers ferrés, crampons, bandes moltières, chemises de flanelle, costumes de grosse laine, dites laudaines, brunes ou verdâtres, avec beaucoup de poches apparentes, à chapeau de feutre, à lunettes noires, à piolet, un énorme sac de toile sur le dos, sur le sac un énorme paquet de cordes. Et nous quatre, je dis bien qu'ils ne nous regardaient pas avec amitié, parce que nous avions en ce temps-là des théories sur l'équipement qui étaient parfaitement contradictoires à celles qu'ils mettaient eux-mêmes en pratique. Et contradictoires visiblement. Je dis que la contradiction éclatait aux yeux. Il faut donner au mot éclaté son sens plein. Parce que la couleur, l'allure, l'attitude, toute la configuration de nos personnages était comme un blâme que nous infligions, et par notre présence seule, aux personnages qu'ils étaient eux-mêmes. Nous avions décidé une fois pour toutes, en effet, que seules les semelles de cordes pouvaient parfaitement faire leur office dans les rochers. Que là où il n'y avait pas de rochers, elles se tireraient aussi bien d'affaire que d'énormes semelles à clous. Que si les habits de drap étaient moins vite mouillés, ils séchaient aussi plus difficilement. Que toute espèce de provision était inutile, puisqu'on trouvait partout à manger, et que là où on ne trouverait rien à manger, il n'y avait qu'à se passer de manger. Que les cordes n'avaient qu'une utilité, celle de multiplier, en cas d'accident, le nombre des victimes. Et c'est ainsi que nous partions, comme les alpinistes en question, pour la montagne, mais en espadrille, ayant des pantalons de toile blanche, une chemise de toile blanche, avec un col et une jolie cravate, et c'était tout. N'ayant pour tout bagage qu'un grand nombre d'essuie-mains turcs aux couleurs éclatantes, roulés dans des courroies, vert pistache, jaune citron, jaune orange, bleu de ciel. car il avait été convenu entre nous également qu'on allait à la montagne essentiellement pour s'y baigner. Il y a partout des rivières, des lacs, des sources, des ruisseaux, des mares, de sorte qu'il nous convenait d'y aller à peu près déshabillés et prêts d'avance pour le bain, ce que n'était certes pas. De sorte qu'enfin, introduisant nos personnages clairs auprès de leurs personnages sombres, déjà installés sur les banquettes, un silence plein de reproches avait brusquement succédé au cœur d'homme dont le wagon, l'instant d'avant, retentissait. C'était ce que C.A. appelait alors, et appelle peut-être encore, la haine sourde. Il fallut bien nous en accommoder. La locomotive sifflait, elle sifflait encore en ce temps-là, et le beau voyage avait commencé pendant que les cœurs, après un regard sévère jeté encore à notre petit groupe, avaient repris plus véhément. Le train s'était mis en branle, il y a de cela longtemps, je n'ose plus compter les années. Ils avaient chanté, ils avaient mangé, des œufs durs, du jambon, du chocolat, du pain, ils avaient bu à leurs gourdes, ils avaient des gourdes. Nous ne chantions pas, ni ne buvions, ni ne chantions. Une simple conversation à voix basse, de quoi intriguer nos voisins, les mécontenter un peu plus, et toutes concertées d'ailleurs à cet effet. Voilà comment nous étions alors, et il y a de cela longtemps. Je me souviens que nous étions descendus à une petite station, en plein champ, tout à fait inconnue et dédaignée des alpinistes, parce qu'il n'y avait pas de sommet classé à proximité. Autre supériorité pour nous. C'était encore une manière de protester contre le genre « haute cime » de ces messieurs. Nous nous étions levés tout à coup, alors qu'ils devaient pousser sans doute jusqu'à Chamonix, et à leur grand étonnement avions quitté le wagon pendant que les portières se garnissaient de têtes barbues sortant de chemises grises brodées d'Edelweiss qui nous avaient dévisagés encore en silence. Puis le train était reparti, les cœurs d'hommes avaient éclaté de nouveau. La haine sourde s'en allait portée ailleurs sur des essieux. Grand beau temps d'alors, car les souvenirs trompent. Pourquoi est-ce qu'il est fait toujours beau temps dans le passé où les choses et les gens se tiennent tout baignés d'un beau soleil qui semble n'avoir jamais pris fin? Quelqu'un a déchiré les pages de l'album qui était de couleur sombre, et c'est sous un ciel sans nuages ou peu nuageux que je nous revois marchant sur des routes ou d'une route à l'autre en passant des cols tous ces premiers jours. Quelques ballons blancs, tout au plus, montent silencieux sous leur belle soie luisante devant des pics et quelques dents blanches, très haut dans l'air, très loin devant nous. C'est un grand pays que la Savoie. Je veux dire que c'est un pays très ouvert, beaucoup plus ouvert que le nôtre, parce que les vallées plus basses y pénètrent aussi plus avant, dans les massifs. Nous avons suivi longuement le fond de ces vallées qui étaient magnifiquement recouverts de lits de cailloux et de bancs de sable, où serpentent les torrents qui sont quelquefois larges et importants comme des fleuves, en certaines saisons, et alors blancs. C'est l'été, quand les glaciers fondent, l'Arvée ou le Gifre, par exemple. J'éprouve encore, sur l'une de mes joues et un côté de mes cheveux, leur souffle sentant la neige, sentant les hauteurs et la liberté, tandis que l'autre côté de ma personne était tout brûlé de soleil, dans l'air immobile et lourd. C'était l'été, quand les neiges fondent, car d'autrefois ces torrents sont tout petits. Ils ne sont plus qu'un maigre ruisselet d'eau noire qui descend, zigzagant avec timidité, parmi les matériaux qu'ils ont accumulés eux-mêmes, mais ils ne s'en souviennent plus, faisant des haltes, s'attroupant autour d'un buisson, peu pressés d'avancer malgré le froid, perdus dans le brouillard, sans voix et sans piétinement. En la saison où nous étions, ils étaient au moment de leur plus grande force, c'est-à-dire de leur plus grande vitesse, c'est-à-dire de leur plus grande largeur et profondeur, montrant l'une derrière l'autre en avant de nous leur rangée d'échines pressées qui venaient avec un mouvement de haut en bas en même temps qu'un mouvement en avant, gris, frisoté, jaune et taché de blanc, remplissant l'espace en hauteur qui allait s'évasant peu à peu entre les deux pentes d'une grande rumeur faite de mille cris. Il y avait AC, CHA, son frère, il y avait B et moi. Nous allions contre les torrents, et les torrents nous venaient contre. Ce qui fait le grand charme de quelques-unes de ces vallées de la Savoie, c'est ce qu'il faut bien appeler leur caractère pastoral, que les nôtres n'ont pas, parce qu'elles sont trop alpestres. J'entends par pastoral un mélange subtil et le plus délicieux dosage des dons les plus campagnards et de ceux de la montagne. L'air est de la montagne, les eaux sont de la montagne. Les jardins, cependant, et les champs vous présentent les fleurs, les fruits, les légumes, tous les produits que la plaine et un climat déjà méridional peuvent ailleurs vous fournir. Je me souviens en particulier de la vallée de Sixte, dont nous longions la rive gauche. Il n'y avait personne sur cette rive gauche. Il n'y avait qu'un vieux chemin peu fréquenté qui serpentait parmi les prés entre des arbres fruitiers pleins d'abeilles, et de temps en temps, au fond d'un jardin, une assez grande maison blanche, basse et carrée, dont les contrevents étaient peints en bleu, montrait à son premier étage un balcon à ornements en fer de lance, également peints en bleu, et dont la pointe était en or. La plupart de ces maisons étaient fermées. On nous avait dit qu'elles appartenaient à des familles du pays qui avaient opté pour l'Italie et qui habitaient Turin. Il y avait de grands arbres et beaucoup de vieilles fleurs dans ces jardins, pivoines en grosses touffes roses, buissons de dahlias, vieux rosiers mal taillés et répandus à terre, le long des allées envahies par la mousse et les mauvaises herbes. Rien n'était plus tranquille, plus délicieusement silencieux, plus richement pourvu d'oiseaux et de toutes sortes d'insectes, faisant leur musique autour de nous, sous les arbres, dans une succession de mares d'ombre et de zones de soleil. On était en pleine campagne, et le chemin allait à plat. Mais l'air qui soufflait par moments était plein de vivacité. L'eau qui coulait abondante aux fontaines d'une parfaite transparence, et quand on levait la tête là-haut, en effet, deux trois cornes grises, une tour branlante de rochers sur le ciel bleu, et même là-bas une pointe blanche, venaient tout à coup se ranger en beaux ornements tout autour de la large vallée à forme de corbeille, où mûrit le raisin, où le maïs est cultivé. Nous, dans nos espadrilles, sur le chemin feutré de poussière, allions sans bruit de notre côté, ne dérangeant même pas un petit pic brun, blanc et rouge, qui se tenait tout debout contre l'écorce, l'attaquant à coups de bec comme avec un petit marteau. Je crois bien que c'est la vallée de Sixte, sur la rive gauche. Sur l'autre rive, il y avait le plus drôle de petit train qu'on puisse voir, et que nous voyions d'où nous étions passés de temps en temps sur la route, de l'autre côté de la rivière. Cette autre rive était la rive habitée, la rive vivante, avec des bourgs et des villages. Le petit train suivait la route en sonnant une cloche. Il était fait de 5 ou 6 wagons, auxquels était attelée une locomotive qui lançait des flammes bleues par une espèce de cheminée, si c'était bien une cheminée, sans que nous eussions jamais pu savoir quelle espèce de combustible elle utilisait, cette locomotive. Si c'était le charbon, le pétrole, l'alcool, le gaz comprimé, ou plus probablement encore un mélange ou une combinaison, ça se passe il y a longtemps, de deux de ces produits. On entendait d'où nous étions sonner la cloche. On voyait entre les arbres, à 300 ou 400 mètres de distance, les voyageurs être assis dos à dos, en deux rangées, dont une nous faisait face, dans les wagons ouverts sur les côtés, sous un petit toit de tôle soutenu aux 4 coins par des colonnettes de fonte. Le plancher du wagon était tellement bas qu'il semblait que les pieds des voyageurs traînaient par terre. Au-dessus de leur tête, on voyait, au contraire, toute la pente de la montagne, grâce au vide qu'il y avait entre elle et le plafond surélevé. Et la pente de la montagne courait, pas vite, en sens inverse. La locomotive crachait des flammes, elle lâchait un jet de vapeur, si c'était bien de la vapeur, elle sifflait, puis s'arrêtait, époumonée, à cause de la pente, pas très forte, crachait, toussait, éternuait, se mouchait, patinait un instant sur place, et on s'étonnait que les voyageurs, apparemment placés et installés, exprès pour qu'ils pussent venir l'aider et pousser aux roues, n'ayant qu'un petit saut à faire, la laissassent ainsi se débrouiller toute seule, comme ils faisaient pourtant, hommes et femmes, installés dos à dos, les bras sur les genoux, la tête en avant. Mais c'est à ces eaux que je pense, c'est elles que je revois surtout, parce qu'elles ont été constamment à nos côtés tout le long de ce voyage. Nous ne les quittions en un point que pour nous retrouver en leur compagnie au point suivant, et d'une vallée à l'autre. Partout elles continuaient à venir, ces grandes eaux. Il y avait partout entre les pentes vertes ces morceaux de désert avec leur sable, leur gravier, leurs cailloux, pâles, bleu pâle, gris blanc, où l'eau, qui était presque de la même couleur, semblait n'être plus par endroits que leur propre glissement, comme si le désert cheminait, comme si les pierres et les bancs de sable se fussent déplacés eux-mêmes. Partout ces morceaux d'ergue, partout ces petits Sahara, assez étroits, mais allongés, et même sans fin dans leur longueur, luisant dans le soleil. Toute cette nature minérale en pleine nature végétale. Blancs, incultes et nus, au sein même de la plus belle végétation, de la plus riche des cultures. Des morceaux de désert, des morceaux de haute montagne descendus jusque dans la plaine, d'où ce caractère pastoral, ce mélange bizarre, l'affrontement de deux natures, le pierrier ayant suivi l'eau, ayant été entraîné avec elle comme pour lui continuer les conditions de sa naissance loin du lieu de son origine et l'entourer jusqu'à son embouchure des objets chers à sa nativité. Il n'y manquait même pas les gros blocs de rochers pointus, dressés çà et là, en plein courant, qui imitaient, en miniature, les hauts sommets penchés là-haut parmi les neiges, sur le berceau du torrent. Nous gagnions un de ces rochers, ou bien on gagnait un banc de sable. Nos vêtements roulés en boule étaient portés au-dessus de nos têtes, à deux mains, et à vrai dire, ils prenaient peu de place. À vrai dire, ils ne pesaient guère, et ils n'étaient guère gênants. Tandis que nous nous avancions, ayant de l'eau parfois jusqu'à la ceinture, et tout déportés en aval par la violence du courant. Le froid de l'eau était comme une lame d'acier qui vous entrait dans le ventre, puis la peau se mettait à rougir, et à vous cuire dès qu'on en était sorti. Nous nous étendions sur le sable. À côté de nous était un des bras de la rivière, le plus rapide et le plus large. Et l'eau venait, elle venait toujours, n'ayant encore rien perdu de son élan. Elle roulait en pleine course, tantôt toute plissée et hérissée, tantôt lisse comme de la soie, parfois aussi soudain rebroussée par une pierre. Alors elle revenait en arrière, faisant entendre comme un cri de surprise, puis recommençait à courir, blanche, pure, trouble, limpide et glacée et qui donnait chaud. Et l'air là-haut descendait avec elle. Il y avait au-dessus du torrent d'eau un torrent d'air. Tous les arbres sur la rive penchaient du même côté, dans un même balancement. Des oiseaux au-dessus de nous étaient emportés par surprise. On les voyait, là-haut, tout à coup battre des ailes à coups précipités, étant dans la nécessité de faire un grand effort pour se dégager de ce cours invisible et tumultueux. Tumulte et en même temps silence. Mouvement et en même temps repos. Nous étions là, les quatre, étendus tout de notre long sur nos essuie-mains aux belles couleurs, rose, bleu de ciel, jaune citron, sur la roche ou dans le sable pâle, les mains sous la nuque, sans un mouvement, et en même temps emportés. Là-haut, le point noir de l'oiseau, se débattant dans un dernier remous, avait enfin gagné l'autre rive de l'air dont seul son changement d'allure marquait pour nous la place. Mais nous n'avions alors qu'à abaisser les yeux pour voir à quelle allure nous nous déplacions, nous aussi, nous et notre îlot de sable ou notre quartier de roc, comme si nous étions en radeau ou attachés sur une planche, comme si notre canot, ayant rompu son amarre, était entraîné à la mer et nous avec lui. De temps en temps, nous échangions un mot ou une phrase, puis nous recommencions à fuir. Je repense souvent à ces torrents de Savoie, et suis bien forcé de me dire que les souvenirs que j'en garde ne sont restés si vivants en moi que parce qu'ils ont été de ceux qui décident d'une vie. Je ne distingue plus très bien, à la grande distance où j'en suis, ce jeune homme à pantalons de toile qui ont été blancs, qui ne le sont déjà plus, ce jeune homme volontiers frondeur et trois amis qui lui ressemblent, soucieux plus qu'il ne convient de l'effet, assez jaloux d'être remarqué. Je les écarte d'abord d'un geste. Je m'écarte moi-même de moi-même, pensant « nous n'avons rien de commun ». Mais je vois vite que c'est faux, car nous avons tout en commun. C'est lui encore que je suis. Certains travers d'extrême jeunesse une fois mis de côté, ne retrouve-t-on pas dans ces longues rêveries au milieu de l'eau, sous le soleil, les causes même, au sens le plus précis, de telles décisions graves prises plus tard dans l'existence, et qui vous a tellement étonné. Nous sommes comme les fleuves. Nous aussi avons besoin, sans le savoir, de retrouver autour de nous les conditions mêmes de nos origines. Si elles ne sont plus autour de nous, c'est au fond de nous-mêmes que nous les conservons. C'est là souvent à notre insu que nous redescendons nous chercher quand nous avons besoin d'être nous-mêmes. Nous nous perdons sans cesse. Il s'agit de se retrouver. Il y a celui qu'une carrière, un métier, les circonstances, les hommes, la société ont fait. Il y a celui que la nature a fait. Il y a celui qui devient. Il y a celui qui est. Je me souviens, j'étais couché sur le dos. Nous étions les quatre couchés côte à côte. Et tantôt, levant les yeux, le ciel étroit et en longueur nous imposait son immobilité. Tantôt, les tournant de côté, le mouvement nous reprenait aussitôt, et il nous emportait communément avec lui-même. Un soleil opiniâtre était appesanti sur nous, dans une parfaite fixité. Un air frais, un air léger, continuellement coulait comme au travers de lui sur nous et venait nous flatter la peau. Il semblait qu'on était dans un parfait silence. Tout à coup, on se mettait à écouter. Alors, on recommençait à entendre. On se serait cru sur un champ de foire. Là-bas, des chevaux de bois tournaient. Un toboggan élevait, par moments, son sourd tonnerre. Des enfants soufflaient dans leurs trompettes de dessous. On appelait dans un porte-voix. L'espace tout entier était rempli d'une espèce de piétinement, comme celui d'une foule qui se déplace sans avancer. Une rumeur faite de mille bruits sans suite, qui se couvraient les uns les autres, venait, se balançant au-dessus de vous, d'en haut, d'en bas, d'en avant, d'en arrière. On fuyait rapidement entre des rives toujours pareilles, puis on s'apercevait qu'elle fuyait aussi, et parallèlement à vous. Le paysage fuyait tout entier. Où étions-nous ? Nous ne le savions plus. Il y avait une espèce de combinaison tournoyante entre la fixité et la fuite, entre la plus extrême irréalité et une réalité de la plus grande précision. Au milieu d'un de ces énormes torrents savoyards, quelques harves, quelques gifres, sur un bloc de rocher ou sur un de ces bancs de sable, nous quatre, étendus, puis assis, et ne parlant guère, ou tout à fait silencieux, des heures, peut-être naissions-nous à nous-mêmes, alors, vers 20 ans ou vers 22 ans. Peut-être découvrait-on pour la première fois dans ce fond de vallée le fond aussi de sa personne. Cet homme inconnu, qu'on connaît un instant, qu'on ne connaît plus, qui est en nous et qui est nous. Décor romantique, dira-t-on ? Pourquoi romantique ? Et pourquoi décor ? Pourquoi même parler de la nature, comme on fait ? Je veux dire, comme si elle était quelque chose d'extérieur, comme si elle ne pouvait avoir avec nous que des rapports exceptionnels. La nature est partout et est constamment, ou n'est pas. Il serait peut-être plus juste de dire que pour certains individus, les grandes émotions viennent de l'homme, et pour certains autres, alors, de cette nature extérieure qui peut contenir l'homme ou ne pas le contenir. Mais qu'on veuille bien voir que, dans le second cas, l'expérience n'est en rien plus superficielle, ni plus artificielle, ni plus anormale, ni en somme moins humaine que l'autre. L'expérience, ou peut-être devrait-on dire l'éducation que la nature nous donne, car c'est d'une véritable éducation qu'il s'agit, peut-être tout au plus est-elle moins utilitaire, cette éducation, moins dirigée vers les choses utiles, et puis c'est tout. Moins sociale, et nullement antisociale, mais asociale à sa limite, c'est-à-dire quand celui qui subit la société se refuse à se plier dans sa pensée, dans ses sentiments, dans ses goûts, aux formes de celle-ci. Mais les sociétés changent et passent. Leurs religions, leurs lois, les mœurs qu'elles se sont faites se défont. Ce qu'on appelle la nature demeure. Peut-être la conception de l'existence qu'on lui doit, quoique moins immédiatement négociable, n'en est-elle que plus profonde. Grande question. Ce n'était pas celle que je me posais alors, mais ce sont celles que je me pose encore à l'occasion de celui que j'étais alors, que je redeviens. D'où avait-il ce goût profond, et n'intéressant pas seulement chez lui le promeneur, ni en lui seulement le sens de la vue, ni celui de l'ouïe, ni celui du toucher ? Pas seulement les facultés de délectation, mais véritablement tout l'être, ce goût pour les choses sauvages, pour le mouvement de l'eau et de l'air, pour la pierre et pour le rocher. Couché sur mon banc de sable, il me semblait que j'avais tout, tandis que l'eau roulait inlassablement à côté de moi. Et on me dira que j'étais hors de la vie des hommes. Mais mon sentiment était au contraire d'être en pleine vie, d'exister véritablement, pour la première fois peut-être, peut-être pour la dernière fois. Pleinement satisfait par quoi ? Par rien, par tout. Je vois bien de quoi on va m'accuser. Peut-être n'aura-t-on pas tort. Je tiens à préciser ici qu'il ne s'agit que de moi. Mes amis étaient ou sont de bons catholiques. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on jugerait mal d'un cas comme le mien en allant y chercher des raisons accidentelles, simplement artistiques ou esthétiques, comme on dit. Où sont intéressées les lignes, les couleurs, les masses, et en général tout ce qui est effet, car mon esprit en tait plutôt les causes. Je pense que c'est le mot, ou je le hasarde, dans un sentiment bien plus proche de l'adoration que de l'admiration. Nous n'avions toujours pas bougé. L'abondance de l'eau était restée la même. Elle continuait à couler sans effort, disant « Voyez, je viens », disant « Je viens encore », disant « Je viens toujours », renouvelant sans cesse son volume dans une inépuisable prodigalité. Mais le ciel, lui, avait changé. Ce ciel long et pointu, ce ciel pareil à un bateau, parce que sa pointe occidentale avait pris une couleur rose et que plus près de nous, à notre gauche, au-dessus des montagnes, le soleil penchait déjà, tout rouge et parfaitement rond, dans une brume de poussière qui était montée jusqu'à lui. On l'avait vu hésiter un moment, comme s'il allait suspendre sa marche, puis, comme la bête qui gagne son trou, comme un gros hérisson qui va en cahotant se tapir sous sa haie, il s'était glissé derrière une des pointes de la chaîne, l'ayant abordé sur le côté, non loin du bout. On l'avait vu disparaître un peu, puis un peu plus, comme quand on se creuse un terrier dans le flanc des rochers, dont la ligne sur le ciel clair était devenue toute noire. Il avait fait froid tout à coup. B avait remis sa chemise. C.H. A. s'était drapé dans ses essuie-mains, dont il s'était noué l'un autour de la tête, le deuxième autour du cou, le troisième autour des reins. Il fallait songer à se rhabiller. Mais impossible d'y procéder avant d'être sur l'autre rive, parce que nous avions encore l'un des bras à traverser. Enfin, nous nous décidions à nous mettre en route, il fallait rentrer dans l'eau. Le difficile était de garder l'équilibre sur un sol mal égal, où les galets étaient glissants et quelquefois tranchants comme des lames de couteau. Heureusement que le courant ne nous venait pas plus haut que les genoux. Et nous gagnions le bourg, et dans le bourg l'auberge, et dans l'auberge la salle basse, où il y avait quatre rondes serviettes qui attendaient, alignées sous la lampe, à savoir celui du receveur de l'enregistrement, celui de l'instituteur stagiaire, celui de l'adjudant de gendarmerie, celui du buraliste postal. Deuxième partie. Il me serait difficile aujourd'hui de me rappeler notre itinéraire. À vrai dire, il était trop embrouillé pour que j'eusse pu même alors en démêler les intentions, s'il en avait eu, ce qui n'était pas le cas. Nous avions décidé d'avance que nous ne nous plierions à aucune direction fixe, ni à aucun horaire. Nous partions le matin sans savoir où nous serions le soir. L'aspect d'une vallée à notre gauche, la forme d'une montagne à notre droite, suffisait à nous faire quitter ce qu'on appelle le droit chemin. J'entends celui que nous suivions. Nous avions passé des cols, circulé longuement, sans chemin, ni sentier, dans des pâturages ou sur des pentes de rochers où nos espadrilles avaient été à l'épreuve. Il n'en restait déjà plus grand-chose. Nous nous étions perdus plusieurs fois, nous avions été comme le petit poussé, égarés la nuit dans la forêt. Nous avions poussé, pour finir, jusqu'à tout près de la frontière valaisanne, où commençaient les glaciers, avec de grandes vues étincelantes, blanches et grises, rochers et neiges, ou roses et grises, ou rouges et grises. Tout à coup, ce cinquième jour, c'est tout ce dont je me souviens, il avait été convenu que nous irions voir les fresques d'abondance, et nous avions été couchés à Saint-Gandolphe, non loin des ruines de l'abbaye. Le vin avait été exécrable. On nous l'avait pourtant servi en bouteille cachetée qui portait sur l'étiquette un nom tout à fait vénérable, mais il ne couvrait qu'un affreux mélange de vin d'Espagne, d'alcool de basse qualité et d'un peu d'eau qui ne coûte rien, à moins que ce ne fût du cidre ou quelque petit verjus de la région. Notre humeur, la mienne du moins, s'en était singulièrement ressentie. Ensuite, et pour comble de malheur, nous avions couché tous les quatre ensemble, car il n'y avait qu'une chambre avec un lit à deux places et des espèces de sommiers à moitié démantibulés. Les discussions y avaient été vives à la lueur d'une bougie qui avait fini par s'éteindre, puis dans le noir, puis dans le clair de lune. Et elles portaient sans doute sur la peinture, du moins j'imagine, mais leur propre était dans ces moments-là d'être pleine de sous-entendus personnels où les caractères s'affrontaient redoutablement sous le masque désintéressé des théories. Nous ne nous étions guère endormis que vers les 2 heures du matin. Dormir est d'ailleurs une manière de parler. Mon sommier ne tenait qu'à peine sur ses pieds et penchait de façon lamentable dès que mon poids portait sur le bord du matelas, tandis que son milieu, à cause d'un ressort cassé dont la pointe perçait le coutil, offrait encore moins de commodité. Mes amis n'étaient guère mieux pourvus, sans doute. À 5 heures, nous étions déjà debout. On nous servit du lait de chèvre et une espèce de jus noirâtre, dénommé café, qui nous avait fait fuir au plus vite par-dessus un ravin dans le plus charmant paysage matinal qu'il soit possible d'imaginer, ce qui avait arrangé un peu les choses. Il y avait une délicieuse disposition blanche tout autour de nous, sur les pentes d'herbe, qui étaient encore dans l'ombre, pendant que l'autre côté de la vallée éclatait de couleurs claires et variées dans le soleil. Une disposition blanche. Le mot est vague, mais la chose l'était aussi, tellement elle était ténue, inconsistante, abstraite, insubstantielle, mal reliée à la réalité. Une sorte de givre, une blanche gelée, une mince couche de neige qui commencerait à fondre en devenant grise. 1000 gouttelettes serrées l'une contre l'autre sur chaque feuille, chaque brin d'herbe, et transparentes prises séparément, mais dont l'ensemble donnait une impression bizarre de densité et d'épaisseur, et d'une grande pureté aussi sous le ciel pur, dans l'air très pur. On hésitait à avancer, considérant derrière soi les tristes traces, comme salies, que vos pieds y avaient laissées. Nous marchions l'un derrière l'autre, comme dans un intérieur très propre et très soigné quand on vient de la rue. Et cependant, autant aurait valu circuler dans le lit même d'un ruisseau, tellement nous étions ruisselants dans le bas de nos personnes. Mais tout allait bien encore, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. On voyait en se retournant que la vallée était coupée en deux dans sa longueur, faisant 2 bandes, l'une jaune, rouge et blanche, pleine de bruits et de voix, l'autre morne et silencieuse, toute grisâtre par contraste, comme si on avait cousu côte à côte un morceau d'été et un morceau d'hiver. Le village était dans le morceau d'été. Il sonnait une cloche. Il était de l'autre côté du ravin qui faisait son bruit. Nous, nous étions du côté où il n'y avait point de bruit, où il n'y avait point de maison, où il n'y avait personne que nous, et nous marchions en silence. Alors, voilà qu'au-dessus de nous, la pente avait commencé à luire. 1000 petites bougies s'y étaient allumées soudain, dont ce n'eût pas été la cire, mais la flamme même, qui aurait été de couleur. Et elle bougeait partout, en vert, en bleu, en rouge, en jaune, comme un arbre de Noël parmi toute espèce de cristaux suspendus qui répondaient à leurs scintillements. Pendant qu'on voyait fuir comme un drap qu'on tire de côté, comme quand on lève une housse de dessus un meuble, comme quand on ôte le tapis d'une table, la mince blancheur vaporeuse et le fin tissu de l'herbe avec sa couleur étaient apparus. Ça allait bien encore. Mais les pentes succédaient aux pentes, et nous nous apercevions, un peu tard, que nous n'avions rien à manger, rien à boire non plus. Non seulement le pays manquait de vin, mais il manquait d'eau, en tout cas d'eau potable. C'était une drôle de région, du moins est-ce ainsi que je la revois dans mon souvenir. Intermédiaire entre la vallée et la montagne, sans sommet défini, sans aucune ligne de direction, une sorte de haut plateau, montueux, bosselé, privé de toute route et de tout chemin, où de rares fermes qui étaient plutôt des chalets, ou bien des chalets qui étaient des fermes, n'apparaissaient jamais qu'à de grandes distances, et dans des lieux pour nous inaccessibles à cause de la configuration du terrain.
Vers midi, nous avions pourtant réussi à nous procurer un peu de pain noir et du reblochon dans une de ces fermes en mauvais état, où il y avait un vieillard et une vieille femme, assez soupçonneux l'un et l'autre, mais qu'un honnête bénéfice sur la vente de leurs produits avait fini par apprivoiser. Nous avions bu à la fontaine, nous avions été ensuite nous étendre non loin de là, sous un sapin. Le temps se gâtait, il faisait chaud, les mouches devenaient méchantes. La lumière était à la fois pâle et aveuglante, trop blanche sous un ciel qui s'assombrissait. Comme nous ne savions pas bien où nous étions, nous avions étalé devant nous une carte, mais toute espèce de point de repère nous manquait, et la discussion qui s'était engagée n'avait abouti à rien. Nous étions partis au hasard. Et c'est ici que ça se gâte. C'est ici qu'il s'agit de renouer avec le commencement de ce récit. À force d'erreurs, nous avions fini par arriver sur une espèce de crête boisée formant demi-cercle, au bas de laquelle s'ouvrait une vaste cuvette dont le bord opposé devait donner accès précisément sur la vallée où était Abondance, du moins à ce qu'il nous semblait. Abondance est un beau nom. Une course de 5 jours, et c'est le 5e au soir ou le 6e, nous le faisait trouver plus beau encore. Nous étions partis sans méfiance, au moment même où il aurait convenu de se méfier le plus. Touristes, faites seulement appel à vos souvenirs, vous qui connaissez la montagne dans son détail, dans ses petits arrangements secrets, dans ses surprises. Elle n'est pas faite que de pentes et de précipices, vous le savez bien. Ceux qui ne la voient que de loin ne le savent peut-être pas assez. On leur demande « qu'est-ce que c'est qu'une montagne ?» Ils disent « c'est un soulèvement de la terre ». Mais ces soulèvements de la terre ne sont pas si réguliers, on veut dire si théoriques, qu'ils ne laissent beaucoup de place à toutes sortes d'accidents imprévus, entre autres toute espèce de poche, et dans toute cette convexité, plusieurs emplacements concaves qui sont sans danger, quand on s'en doute, mais pleins des pires embûches, au cas contraire. Nous étions partis droit devant nous pour gagner du temps. Rien dans l'aspect du terrain ne pouvait nous faire soupçonner de loin sa vraie nature. Nous avions bien vu, arrivés au bas de la pente, la nature de l'herbe changer et qu'elle devenait plus courte, en même temps qu'elle se hérissait par places de longs fétus, mais ils étaient secs. Et elle aussi, et cette mousse où nous posions maintenant le pied, était jaune, ou plutôt grisâtre. Nous n'y avions même pas pris garde, et puis l'orage menaçait. B, en homme circonspect, avait été le premier à s'arrêter et à revenir sur ses pas, mais A et CHA avaient pris les devants, je les suivais. Tout à coup, alors le sol s'était mis à balancer sous mon poids, bien qu'il me portât encore, mais on le sentait suspendu lui-même sur quelque chose d'inconsistant, et j'étais suspendu sur lui dans une double suspension. Tout à coup, j'avais entendu une espèce de grognement. CHA devant moi, qui n'est déjà pas très grand, m'était apparu diminué d'une bonne moitié, étant devenu une espèce d'homme tronc, qui ne montrait qu'un corps sans jambes, au-dessus duquel s'élevait, tenu en l'air par précaution, un paquet aux couleurs vives. Oh, c'était mis à rire, il en avait été puni, il venait de s'enfoncer à son tour. Et moi, moins engagé, j'avais fait aussitôt demi-tour, mais il était trop tard, car nous n'avions sous les pieds qu'une mince écorce, faite de mousse desséchée, dont tout l'arrangement était en train de se disloquer. Tout à fait comme quand des patineurs se sont engagés imprudemment sur de la glace mal formée. Il ne me restait plus qu'à regagner le bord, ce qui pouvait sembler facile, car je n'en étais pas très loin. Mais c'était compté sans mes espadrilles. J'entendais derrière moi les exclamations de surprise, tour à tour amusées ou pleines d'une sourde colère, ou découragées de mes deux amis, les conseils qu'ils se donnaient l'un à l'autre. « Il faut prendre par là. Non, par là. Tu vois bien, je n'enfonce plus. » Puis tout à coup il enfonçait. Impossible même de me retourner, tellement j'étais peu assuré de mon équilibre, dans cette vase molle, où je me sentais descendre lentement, mais constamment, comme si elle eût été sans fond. Je me portais alors de tout mon poids sur mon autre pied, mais il cédait à son tour. Il s'agissait maintenant de ramener à soi précipitamment le premier, mais c'est là qu'intervenaient justement ces fameuses espadrilles. Car elles sont évidemment très convenables pour marcher sur une route. Elles sont aussi très convenables, l'expérience nous l'avait prouvé, pour escalader les rochers, quoique peut-être pas tout à fait assez résistantes. On pouvait même admettre qu'elles ne fussent pas à déconseiller pour des courses dans l'herbe mouillée, méthode Knepp. Nous avions tout prévu, sauf l'aventure où, pour le moment, nous nous débattions, non sans peine, non sans risque. Car elles m'avaient quitté le pied l'une et l'autre, presque tout de suite, mais elles ne m'avaient pas quitté. Elles se trouvaient fixées à ma personne par un solide cordonnet qui se nouait au-dessus de la cheville. Je tirais sur mon propre pied et arrivais bien encore à l'extraire, mais il ne venait pas à moi pour si peu, car il y avait cet autre pied, ou ce supplément, ou cet ergot, dont la propriété particulière était de n'être pas fixe, mais flottant, et pourtant retenu à moi et me retenant. De sorte que tantôt je marchais dessus, alors il s'engageait lui-même plus profondément dans le bourbier, tantôt il y restait fixé comme une ancre au bout de sa corde, et il me faisait tomber en avant. Comment nous sommes sortis de là, c'est ce que je ne sais plus très bien, ni aucun de nous trois, je pense. Il y avait fallu du temps. Nous avions fini pourtant par atteindre la terre ferme, chacun de notre côté, pieds nus, traînant à nos chevilles des espèces de coques noirâtres. Ce n'était pas fini encore, parce que l'orage crevait. Nous n'avions eu que le temps de couper avec un couteau le malencontreux cordon, d'envelopper dans un essuie-main les deux choses malodorantes et d'essayer de fuir. Mais à quoi bon fuir? Et puis, où aller? Nous étions déjà aussi trempés que possible, et plus qu'il n'est possible, jusqu'au plus haut que la ceinture, pendant que nos pantalons autour de nos jambes étaient comme des tuyaux verdâtres qui collaient par place à la peau. Plutôt laisser pleuvoir ce qui serait du moins une espèce de nettoyage. Les nuages noirs passaient l'un après l'autre juste au-dessus de nous, et sans doute que nous apercevant, ils devaient penser « Ah, ils ont besoin de nous !» Ils s'ouvraient par le milieu. Ils étaient comme le vide tout d'un dirigeable. Ils crevaient et nous tombaient dessus. Le malheur était que le chemin que nous suivions maintenant était assez caillouteux, et que des chaussures nous y eussent été bien utiles. Nous avancions à pas feutrés, qui auraient voulu être résolus, mais qui n'étaient qu'hésitants. D'une marche qui aurait voulu être suivie, mais qui, à tout moment, était entrecoupée d'arrêts. En silence, l'un derrière l'autre, d'un air digne, l'air de messieurs qui veulent l'être ou le paraître, mais qui ne sont pourtant pas, à part eux, sans quelque crainte des gendarmes. Car nous approchions des lieux habités, les cheveux collés sur le front, nous les portions longs alors, surtout CHA, et lui très longs et tout crêpés. La chemise plaquée aux épaules, une rigole froide entre les omoplates, il ne nous manquait plus qu'on ne nous demandât nos papiers. Et bien entendu, nous n'en avions point. Nous avions fini pourtant par arriver à Abondance. Il pleuvait moins fort, mais il faisait froid. Nous avions été tout droit à l'auberge, où on avait bien voulu nous recevoir après un instant d'hésitation. Nous avions demandé du feu, on avait bourré de bois le poêle de fonte, et s'est assis tout nu autour de ce poêle de fonte sur lequel nos vêtements faisaient une grosse vapeur que nous avions terminé la journée. Dans ce village d'Abondance, au beau nom, où il y a un vieux cloître avec des fresques. Je me souviens d'un demi-plaisir à l'occasion de ces fresques. Et puis c'est tout. C'est-à-dire d'un plaisir mêlé de déception sans doute, mais sans que je puisse savoir aujourd'hui d'où venait la déception. Nous étions alors extrêmement, et un peu trop, soucieux d'art, ce qui m'a, ce qui nous a, bien passé. Un tableau dans une église illustrait pour nous toute une région. Nous attendions avant tout de lui une parole. Je veux dire une parole humaine. Je veux dire une parole venue de l'homme et s'adressant aux hommes, après toutes celles qu'il exhale inutilement sans doute et en pure perte, n'ayant pas été recueilli à la face du ciel par le moyen de ses autres beautés. Nous prétendions même, pour être tout à fait satisfaits, à y découvrir un accord constant entre l'œuvre de l'homme et celle de la nature, sans voir, moi du moins, que l'histoire et la géographie ne coïncident pas nécessairement. Les ruines de Saint-Gandolphe, qui sont d'un gothique très simple, n'ont rien de savoyard, par exemple, encore qu'il y ait une architecture savoyarde, qui est celle en particulier de ces châteaux, ces beaux gros châteaux bas et trapus, avec des tours rondes et à toit conique, dont nous avons plusieurs exemplaires dans notre pays de Vaud. Mais l'architecture prouve peu, à cause des voyages des architectes au Moyen-Âge, et sans doute aussi dans les temps modernes, parce qu'ils venaient souvent de très loin, et arrivaient en bonnet de petit verre, et arrivent en chapeau melon, en pelisse à crever ou en jaquette de voyage, avec un système et un modèle tout fait dans la tête, tandis que la peinture est beaucoup plus significative, étant ordinairement l'ouvrage d'artistes locaux. Était-ce bien le cas des fresques d'abondance ? Il me semble, si je vois clair dans mes souvenirs, qu'elles étaient en mauvais état et qu'on n'en voyait précisément plus grand-chose. Mais peut-être, au contraire, était-ce nous qui étions fautifs, ou moi ? Nos espadrilles, qui avaient fini en séchant par prendre l'aspect de briques de terre sèche, avaient été soigneusement resculptées par nous, on veut dire tirées de leur gangue à la pointe du couteau, et pouvaient encore servir à la rigueur. Nos pantalons, de même, et nos chemises tenaient encore, quoique n'étant pas de la première fraîcheur. Mais peut-être nos dispositions intérieures avaient-elles moins bien résisté. C'est ce que je pense. L'entrain n'y était plus. Ne pas dormir ou mal dormir a moins de conséquences sur la santé que sur l'humeur. Nous n'en étions qu'au sixième jour de notre voyage, et il nous semblait, sans que nous l'avouions, qu'il n'avait déjà que trop duré. La question était aussi, dans ce fond de vallée en cul-de-sac, de savoir de quel côté nous allions nous diriger, car, à moins de revenir sur nos pas, nous n'avions d'autre ressource que de passer le pas de Morgin, je crois, ce qui nous faisait changer de pays, ou de descendre vers le lac, ce qui nous ramenait à notre point de départ. Nous tournions, incertains, vers les 10 heures du matin, dans la cour de l'auberge, qui était aussi une pension, une petite pension modeste, à l'usage des gens de la région, par quoi il faut entendre, venu de Saint-Julien, de Carouge ou d'Annemasse, quand l'un de nous, sous une sorte de hangar plein d'outils et d'instruments agricoles, avait découvert une voiture qui avait mis tout de suite un terme à nos indécisions. C'était le plus drôle des véhicules qu'il fut possible d'imaginer. Quelque chose qui tenait le milieu entre la calèche et le fiacre, avec des roues peintes en rouge, une vaste corbeille en osier ou en imitation d'osier à 4 places. Et surmontant le tout, un parasol en coutil jaune, tout autour duquel une passementerie compliquée, une sorte de filet à mailles ornementées, laissait pendre une multitude de mouchets de 3 couleurs, jaune, rouge, bleu. Sans doute s'agissait-il de quelques voitures de place achetées d'occasion, Dieu sait où, et à bon compte, vu son délabrement et son ancienneté. Mais, pompeuse encore ou l'ayant été, en tout cas comique. Et tout de suite, nous avions eu l'idée de l'utiliser pour continuer notre voyage, ce qui était lui fournir à peu de frais l'espèce de renouvellement dont il avait le plus besoin. Il ne s'agissait que de trouver le patron, qui fut trouvé, il ne s'agissait que de s'entendre avec le patron, on s'était entendu sans trop de peine. On avait vu arriver un vieux domestique qui traînait un cheval, qui était aussi vieux que lui, il s'était mis à atteler, et à notre question un peu inquiète tout de même, « Oh !» avait dit le vieux, « ça ira tout seul, on est tout le temps à la descente. » Il avait été convenu, en effet, que la voiture nous conduirait jusqu'à Saint-Paul, au-dessus d'Évian, et que là nous nous déciderions sur la suite du voyage. Nous avions donc payé au patron la course d'avance, pendant que le vieux domestique, qui dormait, attachait au brancard sa bête, qui dormait aussi, autrefois blanche, mais toute peinte de vert et de jaune sous le ventre et le long des jambes, maigre et grosse en même temps, la crinière lui pendant sur les yeux entre les oreilles, les genoux comme des soucoupes, le dos ployé dans son milieu comme un arc sous le genou, la queue complètement rongée, tout à fait apparentée par l'âge, l'aspect, le délabrement au véhicule et au cocher. Nous avions été chercher nos paquets. Le petit vieux de son côté avait passé sommairement sur sa chemise en flanelle coton un gilet à manches. Nous nous étions mis en route. Nous étions de nouveau de très bonne humeur. Nous étions assis face à face, nos paquets entre les jambes, sous le grand parasol de toile qui nous cachait le ciel et la montagne, par une espèce de répit mérité, mais laissé voir, et d'autant mieux, entre les mouchets brimbelotants, les talus qui bordaient la route avec leur herbe et leurs buissons tout vernis de beau soleil. La pente était douce, la route molle, creusée d'ornières, le cheval n'avait ni à tirer ni à retenir. Il trottait devant la voiture, au même train que la voiture, c'est-à-dire au petit trot. En se penchant en avant et en levant à demi la tête, on apercevait sur son siège le vieux cocher à l'immense chapeau de jonc, qui somnolait les coudes sur ses cuisses, tandis que ses mains détendues avaient peu à peu laissé échapper les guides, lesquels flottaient jusqu'à terre entre les jambes de derrière de la bête. Tout allait bien, tout semblait devoir aller désormais de mieux en mieux. Je vois que j'ai négligé jusqu'à maintenant de vous présenter mes amis. ce que je comptais pourtant bien faire dès que l'occasion s'en présenterait. Il est bien tard pour le tenter. Qu'il suffise de dire que, nous examinant les uns les autres, nous nous jugions de nouveau très présentables, la jeunesse aidant, sans compter la chevelure de CHA, l'élégance naturelle d'A, l'extrême distinction de B, à quoi un certain désordre dans les vêtements, loin de nuire, venait ajouter un peu de fantaisie. Ce voyage en voiture nous agréait singulièrement. Il nous distinguait une fois de plus et décidément de la tribu des alpinistes. Les alpinistes vont à pied, ou en chemin de fer, ou en autocar. Et puis, il y avait encore l'espèce de la voiture, qui était justement de quoi nous discutions. Je lui trouvais, pour ma part, l'air portugais. Les entrelacs de sa passementerie me faisaient penser aux arabesques compliquées qui se voient au-dessus de certaines fenêtres et de certaines portes sur les façades des palais du XVIe siècle, au Portugal. Il devait y avoir des voitures de ce genre sur les quais déserts des vieux ports du côté de Xérès, de San Martino ou de Setúbal. La conversation de là avait passé tout naturellement à l'Espagne, puis à l'art mauresque, puis au Maroc, d'où CHA revenait. Il nous avait raconté l'histoire d'une caisse de sucre en poudre, amarrée à dos de chameau, mais qui avait dans le coin un trou, c'est-à-dire un tout petit trou, et ce qui s'en était suivi. Il avait été aussi question, je ne sais comment, des remparts de Luc, qui est une ville plate, avec des maisons 18e, à 5 étages, et des platanes grands comme les arbres fabuleux dont il est parlé dans le Robinson suisse. Il avait été question finalement de nos projets, car nous en avions de nouveaux. Et c'était de gagner de Saint-Paul la pointe d'Ivoire, non pas en empruntant la route qui suit le bord du lac, mais en prenant beaucoup plus en arrière sur le plateau. Il paraît que de là, on ne voyait même pas le lac, ou on ne le voyait que pour un moment, tout à coup, entre les châtaigniers. C'était un pays inconnu où K, seul, connaissait pour l'avoir fait à bicyclette. Il n'y avait point de chemin parce qu'ils allaient tous dans l'autre sens, c'est-à-dire vers Thonon ou Évian, c'est-à-dire vers la rive. Alors il fallait de l'un à l'autre et de commune en commune s'ingénier, empruntant les chemins vicinaux, puis sans se faire attraper, car on était au temps de la moisson, coupant ensuite à travers champs. La perspective nous plaisait fort, sans compter que la promenade devait se terminer par une visite au baron d'Ivoire en personne, qu'A connaissait un peu, et dont nous connaissions bien le petit château qu'on voit s'avancer dans le lac, tout pareil à ceux que les croisés ont bâtis en Palestine. Cependant, nous allions toujours du même train. Nous continuions à rouler, ou à glisser plutôt, comme sur une pente de neige, avec de grands balancements doux, dus au ressort, qui étaient encore très bons, quoique fatigués. Nous longions parfois les buissons de cyprès qu'ils entraient tout à coup jusqu'à nous, avec toutes leurs branches encore mouillées, pleines d'oiseaux qui s'envolaient, pendant que la voiture penchait, parfois de façon inquiétante, puis se redressait lentement. Je venais d'allumer une cigarette. Et la suite a été que nous nous sommes trouvés tous les quatre étendus pêle-mêle l'instant d'après dans le pied du talus. Nous n'avons jamais su comment. Ni A, ni CHA, ni B, ni personne. Je veux dire, ni le vieux cocher, ni le vieux cheval que nous avions fini, nous étant relevés par découvrir à quelques pas de là, immobile au bord de la route. Tout s'était passé avec la plus grande douceur. Sans doute qu'une des roues d'arrière étant sortie du bon chemin, la carriole avait dû, à sa souplesse même, de ne pas se renverser complètement, si bien que le cocher était resté sur son siège, le cheval debout devant le cocher, et seuls les voyageurs, quantité négligeable, avaient été vidés les uns par-dessus les autres, la tête la première et les jambes en l'air, mais avec 1000 précautions, dans le plus beau tapis de mousse qu'il fût possible de rêver pour une sieste. Heureusement encore que le vieux domestique s'était aperçu de notre disparition à quelques chaos supplémentaires et quelques modifications brusques dans l'allure de l'ensemble craquant qu'il trimbalait derrière lui. Il s'était donc arrêté quelques pas plus loin, à moins que ce ne fût le cheval qui en eût pris l'initiative. Et c'est ainsi qu'à présent, nous étant mis debout et après nous être assurés du bon état de nos personnes, nous étions partagés entre l'étonnement, une forte envie de rire et enfin surtout une sourde colère naissante qui nous laissait là tout à fait pantois, sans une parole, sans un mouvement. Le vieux cocher s'était enfin décidé à descendre de son siège. Nous le regardions, nous pensions qu'il allait venir vers nous, Sans doute qu'il allait d'abord s'informer de notre état, peut-être nous faire des excuses, tout au moins tenter d'expliquer l'accident. Il n'en fut rien. Nous le regardions, il n'avait pas poussé plus loin que l'arrière de la voiture, là il s'était arrêté. On l'avait vu se baisser, se relever, il hochait la tête, c'était comme si nous n'existions pas. Il n'allait ni plus vite ni plus lentement qu'à son ordinaire, il s'était gratté derrière l'oreille. « Charrette !»« Eh bien quoi ?» Car nous arrivions maintenant, et nous parlions maintenant tous ensemble, mais lui sans même nous entendre, et nous continuions à ne pas exister, pas moyen d'aller plus loin, c'est tout foutu moulu par là-dessous. Et allant à sa bête qui continuait à somnoler, la tête entre les jambes, il avait tiré sur le mort. Alors on avait vu la carriole, en s'ébranlant, laisser paraître cette fois dans toute sa gravité son état de dislocation, les roues de derrière continuant de glisser latéralement sur le talus, celles d'avant d'aller en avant, comme il convenait. De sorte qu'il avait failli d'abord aider le vieux à ramener, en le soulevant, sur la route, le train d'arrière. Puis il avait fallu l'aider à tourner, ce qui ne s'était pas fait sans peine. Nos protestations en étaient restées là. Nous l'avions vu prendre sa bête par la bride. Nous avions eu juste le temps de lui demander où nous étions. « Oh, à une petite heure de Saint-Paul !» Je crois bien que nous lui avions donné encore un pourboire. Et il s'en retournait déjà d'où il venait, tandis que nous nous trouvions plantés sur la route, loin de toute habitation, dans des lieux pour nous inconnus, condamnés une fois de plus, mais cette fois bien malgré nous, à continuer à pied le voyage. Mais nos belles dispositions n'avaient été que passagères. Nous l'avons bien vu l'instant d'après. Elles n'étaient dues qu'au décor et à l'agrément des circonstances. Encore que la route fût ombragée, l'air frais et le ciel qui était reparu au-dessus de nous d'un beau bleu, la mauvaise humeur l'emportait décidément. Au début, il y avait eu une conversation assez animée sur la nature des accidents, et qu'étant complètement imprévus et imprévisibles dans leur venue, ils ne l'étaient pas moins dans leurs conséquences. On rit quand il ne faudrait pas rire, on s'agite quand il faudrait être calme, on se fâche quand on ne devrait pas se fâcher. On ne se fâche pas quand il le faudrait. On ne dit rien quand il faudrait parler, et l'inverse. Nous l'avions bien vu tout à l'heure. Ce qui nous frappait le plus dans la suite des événements était l'absence de tout débat, et leur parfaite acceptation par nous, qui aurait été la même, sans doute, si nous avions eu la jambe cassée, ou la tête fendue, ou la mâchoire démolie. Nous nous représentions, non sans amusement, le vieux cocher, nous laissant étendus, les quatre, tout ensanglantés dans l'herbe, parce que pour lui rien ne devait être exceptionnel. Il y a des hommes ainsi faits. Est-ce parce qu'ils sont trop vieux? Mais, après un premier moment d'amusement, très vite, les plaintes et les reproches étaient venues. C.H.A., qui montre d'ordinaire la plus magnifique des santé, n'en était pas moins sujet, l'est encore, à des dépressions soudaines, qui le plongent dans un silence orageux. Il allait tout seul sur le bord de la route, les mains dans les poches, la tête en avant, tandis que je sentais de mon côté, non sans une sourde irritation, mes espadrilles me quittaient peu à peu de nouveau, tirant sur les nœuds du cordon qui m'entrait dans la peau au-dessus de la cheville. La petite heure de route que nous avions à faire était déjà devenue une grande heure et nous n'avions toujours pas débouché de derrière les montagnes qui étaient entre nous et le lac. Enfin, la vallée s'était élargie. Elle s'était ouverte par le bout, et comme nous avions tourné un peu, nous avons vu le ciel s'ouvrir tandis qu'il se mettait à descendre en avant de nous, ajoutant de ce côté-là une largeur à son étoffe qui blanchissait en même temps comme une robe restée trop longtemps exposée à l'air. On n'apercevait pourtant pas le lac, ou pas encore, mais toute l'immense place creuse qui l'occupait se présentait à la vue, étant venue se mettre entre nous et les montagnes qui avaient reculé de partout à l'horizon. Là-bas, à gauche, le Jura bleu, de l'autre côté, les Alpes vaudoises. Nous ne devions plus être très loin de Saint-Paul. Il était une heure passée. On a entendu chanter des coqs, on voyait quelques champs de blé, on voyait de temps en temps au loin une maison, et A, qui était notre chef de course, sans le titre, et se sentait quelque peu responsable de son succès, montrait, je m'en souviens, plus de bonne humeur qu'il ne convenait, et une gaieté peut-être un peu forcée, pendant que des chiens aboyaient au loin, parce qu'ils disaient « on arrive ». On arrivait, en effet. Il y avait une vieille maison, avec une cour sur le côté, un gros arbre dans cette cour, sous l'arbre deux ou trois tables, et sur ces tables enfin une bouteille ou deux. Un petit chien courant, très maigre, attaché à une énorme chaîne qu'il avait de la peine à traîner à cause du poids, bien qu'il se fût élancé de toute sa force en avant, était sorti de son tonneau pour nous recevoir, ce qui avait été le premier accueil et bruyant. Une grosse femme s'était montrée. Tout en venant, elle nous avait examinés de la tête aux pieds, sans même avoir fait taire le chien, cherchant sans doute à nous ranger dans l'une ou l'autre catégorie de ses clients habituels, gens du village, ouvriers, cheminots. Et, n'y étant pas arrivé, n'avait plus trouvé dans sa tête d'autre parenté vraisemblable que celle qu'elle avait empruntée à des souvenirs du petit journal. Elle avait décidé qu'elle ferait bien de se méfier, et s'étant arrêtée, « Qu'est-ce que vous voulez ?» On lui a demandé si on ne pourrait pas avoir quelque chose à boire. « Bien sûr, et quelque chose à manger. C'est bien tard, comme nous insistions. Enfin, on pourrait vous faire chauffer un peu de soupe, et puis une omelette, et puis un morceau de fromage. » Elle avait ajouté tout de suite, « Mais ça fera 3 francs par tête, 20 noms compris. » C'était avant la guerre. Le chien aboyait toujours. Nous nous étions assis sur un banc boiteux devant une table faite de 2 planches brutes, clouées sur des pieux enfoncés en terre, avec le rond des verres de bière, des éclaboussures de vin rouge, des miettes de pain qui traînaient dessus. L'arbre, à moitié sec, plein de vermine, laissait pendre vers nous, au bout de leur fil, ses chenilles. De temps en temps, comme en plein automne, une feuille morte tombait. La cour était pleine de débris, avec un petit mur ruiné qui la séparait de la route et un jeu de quilles pourri. Une charrue et une herse hors d'usage étaient dressées contre la façade du bâtiment, aux fenêtres sans rideaux. Nous avions attendu. Puis la femme était reparue avec 4 assiettes ébréchées et 1 litre de vin trouble qu'elle avait posé devant nous sans le moindre coup de torchon. Nous considérions en silence, dans la couverte toute rayée des assiettes, des scènes de la vie militaire, avec des devises grossièrement tracées en rouge. Le vin était imbuvable, la soupe aigre, le pain rassis. L'omelette qu'on nous avait servie ensuite avait été faite avec de la vieille margarine ou du sein d'ourance. Et cependant, tout se serait bien passé encore si, et peut-être pour essayer de nous faire oublier la médiocrité du repas, une discussion, et une discussion esthétique, ne s'était engagée alors entre nous, je me rappelle, et m'en rappelle même le sujet, devant les verres restés à demi pleins, les assiettes vidées à moitié, le pain tripoté du bout des doigts. Une discussion esthétique sur le climat qui convenait le mieux à l'art, j'entends son climat intérieur, et en quelque sorte sa discipline. J'y soutenais les droits de la pauvreté, même je me servais du mot de « dénuement ». La pauvreté dans le décor, la pauvreté dans l'attitude, la pauvreté dans la matière, parce que c'est de là, en gros, que se tire l'intensité. Les exemples ne manquaient pas, mais peut-être les exemples en sens contraire non plus, car justement faisaient valoir, tandis que B servait d'arbitre, s'appliquant à trouver une loi supérieure qui nous donna raison ou tort à tous les deux. CHA se taisait. Il se taisait plus que jamais. Il y avait bien 2 heures qu'il n'avait pas cessé de se taire. Il se taisait avec concentration. Il accumulait au-dedans de lui et entre ses côtes toute espèce de sourde rancune comme une machine sa vapeur. Était-ce ce que nous disions? Était-ce qu'il avait son avis, un 4e avis peut-être, et que nous ne lui laissions pas le temps de le placer? Ou bien s'agissait-il de toute autre chose? Peut-être d'anciens crève-cœurs, longuement par lui ruminés, et que ce dernier contretemps avait enfin porté à leur plus haut degré de tension. Mais tout à coup, au beau milieu d'une phrase, voilà qu'il donne un violent coup de poing sur la table, faisant sauter le vin hors des verres, la miche de pain hors de son plat. Il se lève, il jette 5 francs sur la table, il prend son paquet, il s'en va. Il partait tout seul et à grands pas vers la montagne. Aussitôt, le chien, pris de furie, avait recommencé à aboyer. Et la discussion avait pris fin, en même temps que le repas et du même coup le voyage. Car j'étais seul maintenant sur la route. A et B étaient partis pour Thonon. Moi, je devais gagner Évian, où je trouverais le bateau qui me ramènerait à Lausanne. On devine dans quel équipage. J'étais seul et j'avais maintenant toute une foule à affronter. Le débraillé du costume n'est rien encore en compagnie, je veux dire, quand il est soutenu par celui de votre voisinage où il se trouve reproduit. Une collectivité s'impose. On l'accepte pour cela seul qu'elle est une collectivité. Mais tout à coup, je me voyais sans la moindre protection, ni rien qui expliquât mon cas, jeté de nouveau parmi les hommes. J'avais eu beau passer sur ma chemise honteuse une veste de toile, elle n'était pas sans porter elle aussi les marques d'un séjour prolongé sous les courroies du paquetage. Elle ne cachait même pas le pantalon qui m'apparaissait tout à coup dans son extraordinaire bigarrure. Frotté de noir aux plis, de jaune entre les plis, de vert où on devine, à moitié déchiré d'ailleurs et ne tenant plus qu'à peine dans la ceinture. Je titubais dans mes espadrilles que je n'osais pourtant pas ôter, sans quoi j'aurais été pieds nus. J'approchais de la région des autels, tandis qu'un lac trop bleu, trop lisse, trop soigné, trop désert, ne montrait que quelques jolis bateaux à rames ou à voile, dispersés aux alentours immédiats du port. Je devinais ce que j'allais y trouver. Toutes sortes de beaux messieurs en costume de tennis, flanelle blanche, plis au pantalon, souliers de peau de daim, chemise de soie, toutes sortes de belles dames en robe d'après-midi. Et voilà que le lac, dans mon désarroi, m'apparaissait soudain tel qu'il était. Puis, on ne le voit plus tel qu'il est, parce qu'on l'invente. Mais je n'avais plus la force d'inventer. Je veux dire un lac pour oisif, un lac d'hôtelier lui aussi, un lac où on ne se montre qu'en costume du dimanche. Sans commerce, sans utilité, sauf quelques barques à pierre ou à sable. Sans race à lui, sans ces magnifiques marins de la mer et ces gens des ports, sans la belle santé des ports, leur débraillé, leur saleté vivante. Ici, quelques vieilles anglaises, c'est tout, quelques touristes, quelques bourgeois avec leurs familles, quelques sociétés en promenade. Deux bateaux à vapeur approchaient justement, sur l'un se faisait entendre un cœur d'homme, sur l'autre une fanfare accordait ses instruments. Et je m'étais laissé tomber, désespéré, dans un buisson. Ici se termine Le Voyage en Savoie par Charles Ferdinand Ramu.